programme va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et merci d'être à l'écoute du programme en français de Radio Prague qui vous est présenté aujourd'hui par Magdalena Hrozinkova. À l'affiche aujourd'hui, l'art de la photographie avec Anna Kubiszta, le courrier des auditeurs consacré évidemment au 75e anniversaire de Radio Prague. Ce sera avec Václav Richter. Et Václav vous parlera ensuite dans le magazine littéraire du nouveau livre du théologien Tomáš Halík. Place donc à la culture, la galerie du Rodolfinum propose jusqu'au 13 novembre une exposition intitulée « Controverse, une histoire légale et éthique de la photographie ». Cette exposition, née à Lausanne, en Suisse, au musée de l'Élysée, a déjà parcouru 6 pays depuis sa première édition en 2008. Rencontre aujourd'hui avec Christian Pirker, avocat à Genève et historien de l'art, mais aussi avec Daniel Girardin, conservateur au musée de l'Élysée, qui est revenu sur la genèse de l'exposition au micro d'Anna Kubiszta.
Culture sans frontières.
Alors, l'idée au départ, étant donné la multiplication des procès dans le milieu de la photographie, notamment étant donné que je suis conservateur d'un musée de la photographie, j'ai été confronté depuis les années 80 à ces questions, nous avons essayé de comprendre avec Maître Pirker, qui est avocat, de comprendre où étaient les problèmes dans la photographie, comment ils ont été résolus, comment les lois se sont élaborées petit à petit. Donc nous avons commencé le projet en analysant quelques centaines de cas de photographie qui ont donné lieu à des procès. Et nous sommes très vite aperçus qu'une grande partie des photographies dites qui ont suscité une controverse n'ont pas forcément été devant un tribunal, mais ont fait l'objet d'un débat social, politique, à travers les journaux notamment, et que la question juridique ne résolvait qu'une petite partie de la complexité, si on veut, des problèmes de la représentation et des limites qui sont associées à la représentation, qui ne sont pas forcément légales. Je vous cite un exemple. Dans les années 70, un photographe qui s'appelait David Hamilton a publié des photographies de jeunes filles, les jeunes filles en fleurs, a fait des films. C'est des photographies qui étaient publiées en poster à des millions d'exemplaires qu'on trouvait dans tous les journaux. Aujourd'hui, c'est un érotisme assez soft, je veux dire, assez délicat, je veux dire, rien de très choquant. Aujourd'hui, aucune de ces photographies ne peut être montrée et publiée parce que tous les modèles étaient mineurs, n'est-ce pas ? Donc là, on a un cas d'une photographie qui pouvait diffuser des millions d'exemplaires
et qui aujourd'hui ne
peut plus être présentée. Alors, c'est intéressant pour nous parce que les lois n'ont pas vraiment forcément changé, mais les lois deviennent applicables ou appliquées, ou elles se durcissent, ou on ne l'applique pas pendant quelques années en fonction, de l'état général d'une société, de la mentalité, de la culture qui existe.
Est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là justement que finalement une photographie peut avoir plusieurs vies selon la période à laquelle elle est exposée ou publiée ?
Absolument, et c'est le cas notamment de photographies qui sont prises sous des dictatures. Des photographies qui étaient des photographies du corps ou de la sexualité qui sont faites dans des années de grande liberté sexuelle, début du XXe siècle ou dans les années 60 ou 70 par exemple, et qui aujourd'hui pose problème parce que nous sommes dans une société qui aujourd'hui, qu'on dit politiquement correcte, et qui applique un certain nombre de critères qui n'étaient pas les mêmes dans les années 70. Donc notre idée de toute cette exposition était de comprendre à la fois quelles sont les lois qui s'appliquent aux photographies, et il y en a beaucoup, elles sont complexes, et puis de comprendre comment les photographies ont été perçues ou réprimées à des moments de la société. Et notre idée a été que ceux qui voient les expositions, réfléchissent à la photographie. Nous donnons les clés de lecture. Quand il y a des controverses, il y a deux points de vue. On les explique. Nous sommes neutres dans la question, de manière à ce que le public se fasse une opinion qu'on peut appeler une conviction mais qui n'est pas une certitude, c'est-à-dire en entrant, en voyant une image, dire c'est scandaleux, c'est exclu, on ne doit pas la montrer. Et derrière, il y a évidemment toute une réflexion sur le droit de la photographie, bien sûr, sur les droits d'auteur, sur l'appropriation d'une photographie dans l'art contemporain. C'est toute une réflexion qui est permanente, je dirais, mais c'est aussi une réflexion sur la représentation dans les sociétés. Cette question, elle est millénaire, elle commence en Grèce, au 4e siècle avant Jésus-Christ, elle traverse la fin de l'époque romaine, elle traverse la Renaissance. Et...
Donc les controverses ne sont pas nées avec la photographie, c'est né avec l'image et la représentation.
Exactement, c'est une question, il y a toujours une controverse autour de la représentation, en tous les cas pas forcément une controverse, mais en tous les cas une volonté de contrôler les images, de contrôler leur sens. Donc c'est une lecture, qu'on peut dire, très politique de la question de la représentation. Alors la photographie a concentré toutes les questions qui sont posées avant à une échelle évidemment immense.
J'aimerais m'attarder sur une photographie qui m'a étonnée. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi justement elle fait partie de cette exposition. C'est la photo du mime Jean-Gaspard de Bureau. Alors il se trouve qu'il est franco-tchèque donc d'origine. Donc c'est d'autant plus intéressant également puisque l'expo est à Prague. Pourquoi en fait cette photographie du mime de Bureau a été sujette à controverse?
Alors c'est une des premières photographies qui a donné lieu à un procès qui a révélé beaucoup de choses. C'était un procès que Nadar, aîné, a fait à son frère, Adrien Tournachon, donc les frères Tournachon. Au début des années 50, le frère...
Du 19e siècle.
Du 19e siècle, oui, de 1850. Le frère aîné, Nadar, veut aider son petit frère et il l'introduit dans la photographie. Et le petit frère a beaucoup de succès. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'appeler Tournachon, il s'appelle Nadar Jeune. Et il capte la clientèle, la célébrité de son frère aîné. Donc le frère aîné fait un procès pour faire reconnaître son droit, non seulement sur les images qu'il fait, mais sur son statut de photographe. Alors ce premier procès révèle évidemment ce qui va devenir, 10 ans plus tard, fondamental de la photographie, c'est-à-dire le droit d'auteur et la reconnaissance que celui qui fait une photographie fait œuvre d'art et à ce titre-là, la reconnaissance de tous les droits intellectuels qu'a obtenu un musicien, un peintre ou un écrivain. Donc cette photographie de Nadar, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle est une des premières sur lequel, avec laquelle nous avons les minutes du procès et il y a un développement de toute la problématique par les avocats. Et c'était évidemment intéressant de voir quels sont les arguments qui sont déjà les mêmes que ceux qu'on défend aujourd'hui au début des années 1850.
Quand on pense à la photographie, aux controverses, aux interdits, on pense évidemment à la censure. Alors, d'une certaine façon, on pourrait se dire, ici, il y a plein de photographies, mais il y a sans doute aussi des photographies absentes. Est-ce que finalement, il y a des photographies qu'on ne peut pas montrer dans le cadre d'une exposition telle que celle-ci?
Bien sûr, il y a deux cas. Il y a des photographies pour lesquelles nous n'avons pas obtenu les droits parce que le photographe ou les ayants droit ont refusé. Il y a une dizaine de cas. Et puis, il y a évidemment des photographies qui soit tombent sous le coup de la loi aujourd'hui d'une décision du tribunal. Et la question est à double sens. Peut-on tout montrer? On peut tout montrer, je dirais, techniquement diffuser. On peut pas tout montrer dans la mesure où il y a un certain nombre de lois qui interdisent un certain nombre de représentations dans telles conditions. Mais ce qui est intéressant et que nous avons voulu montrer avec cette exposition, c'est que la loi, elle ne dit pas « il est interdit de faire une photographie avec du bleu, mais le jaune est permis », mais on interprète une image. Et un tribunal interprète une image dans un lieu donné, et 6 mois après, ou 1000 kilomètres plus loin, un autre tribunal peut interpréter une photographie dans un tout autre sens. Alors il y a beaucoup de cas ici dans l'exposition, de procès, où on voit que les premiers procès ont été perdus, ensuite ils sont gagnés en instance, n'est-ce pas, avec des arguments qui sont les mêmes et qui convainquent soit un jury, soit un tribunal. Donc la question est aussi que la représentation, elle est extrêmement complexe. Et il y a des choses qui sont très simples, mais sur le type de la, par rapport au droit d'auteur et encore, mais par rapport à la représentation elle-même, les choses sont nées et naissent d'une interprétation. Alors si vous êtes dans une société qui interprète la sexualité de manière extrêmement libre, eh bien, logiquement et forcément, vous avez des jugements de tribunaux ou pas du tout de procès, n'est-ce pas? Et si vous avez une société qui est plutôt répressive, eh bien, vous avez immédiatement une censure. Alors, notre idée était de montrer qu'une photographie, elle fait l'objet d'une interprétation, que ce soit du public, de vous-même, de moi, ou d'un juge ou d'un procureur.
Christian Perquer, vous êtes avocat, vous êtes également historien de l'art. Comment est-ce que c'est né en fait cette participation à ce projet qui est un livre controverse et qui est également une exposition qui est aujourd'hui à Prague?
Alors c'est avec Daniel Girardin, un ami, on était à l'époque pour une conférence sur la photographie et est né, on va dire, les balbutiements de ce projet qui était initialement de faire une exposition avec des images qui ont fait l'objet de procès.
Est-ce que vous-même, dans votre pratique justement d'avocat, vous avez été confronté à cela?
Oui, j'ai été confronté ponctuellement à ça. C'est vraisemblablement une des petites graines de l'idée, probablement. Peut-être aussi celle de commencer une petite collection dans ce domaine. Donc voilà. Et puis après, on s'est rendu compte que les procès arrivent rarement à terme. Et de nombreux problèmes aussi ne sont pas forcément en lien avec un procès. Je pense à tous les problèmes éthiques de photojournalisme et autres. Et donc, nous avons décidé d'étendre la problématique à tout ce qui est éthique également et pas seulement juridique.
Alors, vous balayez une large période, hein, puisque vous commencez finalement au début, en gros, de la photographie au XIXe siècle jusqu'à, disons, des photographies d'il y a quelques années.
Alors, effectivement, c'est l'idée était de présenter une histoire éthique et juridique de la photographie. C'est pour ça qu'on commence avec Hippolyte Bayard. Donc, vraiment, c'est la naissance de la photographie jusqu'à l'art vraiment très, très contemporain avec certaines controverses qui datent d'il y a à peine quelques années.
Est-ce que cette exposition controverse a été elle-même sujette à controverse?
Pas à ma connaissance, parce que précisément l'objectif n'est pas de faire une controverse, mais d'en présenter de manière la plus neutre possible pour que chaque personne puisse faire sa propre opinion sur les images.
Puisqu'on est ici dans un musée, hein, dans une galerie, est-ce que on peut dire qu'il existe des faux en photographie? Est-ce que ça existe en fait? Parce qu'on pense aux faux en peinture, mais est-ce que des faux existent en photo?
Alors, je pense que le faux, par opposition au vrai, dans la photographie, doit s'interpréter selon plusieurs niveaux. C'est-à-dire, d'abord, il y a le faux au niveau, on va dire, du message véhiculé. On peut penser à de la propagande, on peut penser à, on va dire, ce qu'on appelle des mises en scène. Donc, dans le message serait faux. Ensuite, après, il y a le faux au niveau, on va dire, on commence à travailler le médium, c'est-à-dire tout ce qui est retouché, toutes les mises en scène, les photomontages, etc. Et puis, le troisième type de faux, c'est le faux au niveau, par exemple, ce n'est pas une œuvre autographe, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est pas la bonne signature. Et même dans ce cadre-là, il y a une variété de faux potentiellement possibles, parce que on peut imaginer une photo d'un tiers qu'on attribue faussement. Mais après, on peut aussi imaginer que c'est un tirage moderne fait avec le négatif fait de la main de l'auteur, mais juridiquement, cela peut être aussi considéré comme un faux, parce que ça n'a pas été fait par l'auteur ou approuvé par lui. Mais on se rend compte que la conception du faux est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça en a l'air.
Merci à Anna Kubishta pour ce magazine culturel. Je rappelle que l'exposition Controverse, une histoire légale et éthique de la photographie, est ouverte à la galerie du Rudolfinum jusqu'au 13 novembre prochain. Place maintenant à vos lettres.
Courrier des auditeurs.
Bonjour, la majorité des lettres et des courriels que nous avons reçus ces derniers temps réagissent au 75e anniversaire de Radio Prague, anniversaire auquel nous avons consacré une émission spéciale le 31 août dernier. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et qui continuent à écouter nos programmes malgré la suppression de nos émissions sur ondes courtes.
Merci également à tous ceux qui lisent nos articles sur Internet. Voici donc quelques extraits de vos lettres reçues ces derniers temps. Cette émission a été préparée et vous sera présentée par Anna Kubishta et Václav Richter. Je viens d'écouter l'émission spéciale pour les 75 ans de Radio Prague. Nous écrit notre éditeur assidu, monsieur Christian Guibaudot, qui évoque les émissions de Radio Prague des années 1970. Quel plaisir de constater que vous êtes toujours à l'antenne, écrit-il, même si les ondes courtes ont disparu. J'ai commencé à vous écouter en 1975, c'était sur les ondes moyennes en soirée, et j'étais relativement jeune. Vous étiez l'une des rares stations du bloc communiste que j'écoutais. Je ne me rappelle pas pourquoi mon attention s'est portée sur Radio Prague et m'a incité à rester à l'écoute. J'avoue que j'étais moins assidu du temps du régime communiste. Puis j'ai suivi la libération des ondes après la révolution de velours. Pendant quelque temps, Radio Prague est restée absente des ondes pour se réorganiser. J'ai vraiment cru que la station allait disparaître. Et non, heureusement, vous êtes revenu sur les ondes. Après avoir été longtemps la voix de la Tchécoslovaquie, Radio Prague est maintenant la voix de la Tchéquie. Vos émissions sont toujours aussi intéressantes, je dirais même encore plus agréables à écouter. De plus, avec le confort d'Internet et du satellite, c'est l'idéal. Je regrette quand même la disparition des ondes hertziennes qui permettaient de vous écouter partout et facilement, même si la réception n'était pas toujours des meilleures. Je vous souhaite un bon anniversaire et une bonne continuation vers les 80 ans. Ce n'est pas bien loin. Restez toujours présents. Merci.
Tandis que M. Christian Guibaudot apprécie la possibilité d'écouter nos émissions sur Internet en constatant que l'écoute est maintenant plus facile et de meilleure qualité, nos auditeurs Frédéric et Hervé Briand de France nous parlent dans leur missive des difficultés auxquelles ils se sont heurtés en écoutant notre émission spéciale du 75e anniversaire de Radio Prague.
Beaucoup d'émotions dans cette évocation des 75 ans de Radio Prague. Lisons-nous dans ce courriel de la diffusion des essais des premières émissions à nos jours, mais aussi dans les témoignages de ces deux anciens collaborateurs sur deux des périodes importantes de votre histoire, 1968 et 1989. Mais étant en vacances dans un petit village du Lot, il a fallu que je fasse preuve de beaucoup d'imagination et de persévérance pour pouvoir écouter votre émission le 31 août en téléchargeant celle-ci et en l'écoutant à partir de 16h40 TU, pratiquement en direct. Rendez-vous compte, partir en vacances avec un micro-ordinateur portable, un clé 3G pour pouvoir se connecter sur Internet dans ce petit village où un seul opérateur est présent et encore avec un signal faible et de nombreuses coupures, alors que l'année dernière mon récepteur radio équipé des ondes courtes aurait été suffisant. Mais c'est le progrès et la rançon de l'équilibre budgétaire des États. Merci encore pour vos émissions et continuez ainsi encore longtemps que nous ayons le plaisir de fêter de nombreux anniversaires.
Et Frédéric et Hervé Briand de féliciter le judoka tchèque Lukáš Krpálek pour sa troisième place dans la catégorie de moins de 100 kilos et de demander si le judo est un sport très pratiqué en République tchèque. Eh bien, les premiers clubs de judo ont été créés en Tchécoslovaquie dès 1919 et aujourd'hui, ces clubs se trouvent pratiquement dans toutes les régions de République tchèque. La majorité des judokas tchèques sont membres de l'Union tchèque de judo qui réunit environ 200 clubs et près de 10 000 adhérents. Nous avons constaté avec plaisir que nos émissions sont écoutées aussi au Japon et les auditeurs japonais ont fêté avec nous le 75e anniversaire de notre radio.
Je souhaite un très joyeux anniversaire à Radio Prague, nous écrit Monsieur Osamu Aikawa de Tokyo. Félicitations, cher Radio Prague, je suis l'un des deux auditeurs japonais réguliers du programme français de Radio Prague depuis 2009. Et je suis très heureux de rester en contact avec vous aujourd'hui alors que votre radio atteint l'âge de 75 ans. J'espère rester en contact avec Radio Prague tant qu'elle existera. Merci beaucoup.
C'était donc la lettre de Monsieur Osamu Aikawa et voici encore un extrait de celle de son compatriote Motofumi Kai, résident également à Tokyo.
Toutes mes félicitations pour le 75e anniversaire de Radio Prague, écrit-il. Je suis bien content de pouvoir partager votre joie à cette occasion. J'ai commencé à écouter vos émissions il y a pas mal d'années et je suis toujours fidèle à l'écoute. Maintenant, il n'y a plus d'ondes courtes, mais je peux vous écouter sur Internet, ce qui me rend heureux. L'émission spéciale m'a beaucoup plu. Merci à vous tous.
Nous aussi, nous remercions tous ceux qui nous ont écrit et nous ont adressé des rapports d'écoute, et notamment M. René Durand d'Orvault en France, M. Jean-Marie Monplot de Chambéry également en France et à M. André Biot de Romeray en Belgique.
Merci de rester fidèle à nos émissions. À bientôt.
À bientôt. C'était le courrier des auditeurs en compagnie de Václav Richter et Anna Kubišta. Et Václav Richter reste avec vous pour la rencontre littéraire de cette semaine. Il vous présente un des ouvrages du théologien tchèque Tomáš Halík, un essai théologique peu orthodoxe qui lui a pourtant valu une importante distinction décernée par l'Association européenne pour la théologie catholique.
Rencontre littéraire. Patience with God, patience avec Dieu, tel est le titre original du livre qui a valu à son auteur, le théologien tchèque Tomáš Halík, le prix du meilleur livre théologique européen des années 2009-2010. Le livre a été écrit sur commande de la prestigieuse maison d'édition américaine Doubleday. L'Association européenne pour la théologie catholique a distingué cet ouvrage entre autres parce qu'il ne manque pas de traits autobiographiques, car son auteur ose parler de sa recherche, de ses propres expériences et de ses propres crises de la foi. Le chemin de Tomáš Halík vers la littérature n'a pas été simple. Il est né en 1948 dans une famille très cultivée. Son père était éditeur des œuvres des frères Karel et Josef Čapek, et le petit Tomáš a grandi parmi les gens de lettres.
Není divu, že jsem začal psát knížky od chvíle, kdy jsem...
Rien d'étonnant que je me suis mis à écrire des livres dès les moments où j'ai appris à tenir la plume et à différencier les lettres. Je ne voulais pas devenir cosmonaute, mais écrivain, et cela ne m'a pas lâché pendant longtemps. J'écrivais des romans historiques situés surtout à l'époque hussite, parce que j'étais un hussite ardent. Ce n'est qu'au lycée que je me suis rendu compte qu'il valait mieux lire et étudier qu'écrire, et j'ai abandonné l'écriture jusqu'à l'âge de 50 ans.
Diplômé de sociologie et de philosophie à l'université Charles de Prague, Tomáš Halík n'est pas autorisé à enseigner sous le régime communiste et gagne sa vie comme psychologue, puis comme psychothérapeute auprès des toxicomanes. En 1978, il est ordonné prêtre en secret à Erfurt en Allemagne et s'impose peu à peu comme une personnalité importante de l'église clandestine en Tchécoslovaquie. Il est également un des proches collaborateurs du cardinal et primat de l'église catholique tchèque, František Tomáš. Après la chute du communisme en Tchécoslovaquie, Tomáš Halík peut finalement avouer sa vocation religieuse, enseigner la théologie et célébrer les offices. Ce n'est qu'après avoir beaucoup étudié et voyagé, après être parvenu à la maturité spirituelle, que Tomáš Halík est revenu à la création littéraire. Il ne fera ce pas qu'après avoir noué un dialogue avec d'autres cultures et d'autres religions, et surtout avec l'athéisme, dialogue qu'il considère comme fondamental. Chaque année, en été, il passe désormais plusieurs semaines en un ermitage en Rhénanie, où il trouve le calme nécessaire pour la méditation et l'écriture. C'est là qu'il rédige toute une série d'ouvrages, et la portée de ses pensées dépasse bientôt les frontières de la République tchèque. Le livre « Patience avec Dieu » a déjà été publié en version tchèque, anglaise, polonaise et allemande et sera traduit et publié aussi dans d'autres langues, dont le chinois, le coréen et le français. Et il remporte finalement le prix du meilleur livre théologique européen, prix qui vient d'être créé et dont Tomáš Halík est le tout premier lauréat.
Tohle to je velké překvapení, že cena za nejlepší teologickou knihu jde do země.
C'est une grande surprise parce que le prix du meilleur livre théologique est remporté par un pays qui est généralement considéré comme l'un des plus athées d'Europe, sinon le plus athée au monde. Surpris, les gens se demandent comment il est possible qu'une telle contribution à la pensée théologique ait pu naître dans un pays dont ils sont convaincus qu'il ne peut pas enrichir la culture chrétienne.
Si myslí, že tedy tu křesťanskou kulturu moc obohatit nemůže.
La commission qui a attribué le prix au livre de Tomáš Halík a apprécié entre autres le fait que l'ouvrage s'adresse au grand public et ne soit pas destiné uniquement aux milieux ecclésiastiques. Elle a constaté que le livre renouait d'une certaine façon avec le genre de l'essai théologique, genre illustré par Chesterton ou Guardini, qui lui ont donné la profondeur des idées et aussi la beauté du style. Selon Tomáš Halík, dans le monde actuel diminue le nombre de croyants complètement identifiés avec des institutions religieuses.
Oui, en effet, leur nombre diminue de même que diminue le nombre d'athées convaincus. Et partout augmente le nombre de ceux qui cherchent la foi. Je m'adresse justement à ceux qui cherchent et je veux leur démontrer que la foi, si elle veut être vivante et authentique, ne peut pas être une idéologie, mais qu'elle est aussi une recherche.
Le livre de Tomáš Halík a été distingué aussi pour sa contribution au débat sur l'identité culturelle de l'Europe. L'auteur constate que le débat actuel est marqué par deux opinions extrêmes et contradictoires. D'un côté, c'est le fondamentalisme chrétien et la nostalgie de la culture catholique du Moyen-Âge, une vision romantique du christianisme qui est dépassée et même dangereuse. D'autre côté, il y a la vision d'une Europe complètement sécularisée et où le christianisme serait tout à fait dépourvu de légitimité. Et Tomáš Halík d'affirmer que si le sécularisme dominait complètement l'espace public, il deviendrait lui-même une espèce de religion et qu'il serait une religion très intolérante. Il estime que les formes extrêmes de l'athéisme et du sécularisme sont beaucoup plus intolérantes que le christianisme actuel. L'avenir est donc, selon Tomáš Halík, dans le dialogue permanent entre la société laïque et sécularisée de l'Occident et la tradition chrétienne.
Je montre que la foi parvenue à la maturité doit être capable de supporter des questions ouvertes. Que la foi, c'est le courage d'explorer un mystère, que Dieu n'est pas un être caché derrière les coulisses de l'histoire et de la nature, mais que c'est la profondeur du sens, que Dieu crée un contexte dans le cadre duquel la vie humaine prend son sens.
Vu sous cette optique, chaque vie humaine, mais aussi l'histoire de l'humanité et la nature, ne sont qu'un fragment, et c'est Dieu qui donne un sens à ce fragment. Et Tomáš Halík de constater encore que nous ne pouvons pas disposer de ce contexte et que Dieu n'est pas à notre disposition parce qu'il est mystère. La foi doit être donc accompagnée de patience. C'est pourquoi Tomáš Halík ne dit pas aux athées qu'ils n'ont pas raison, mais qu'ils manquent de patience. D'après lui, le monde tel qu'il est permet une interprétation athée, mais aussi une interprétation que nous offre la foi, et nous pouvons choisir librement entre ces possibilités. Il estime que l'athéisme, mais aussi la religiosité superficielle, sont des manifestations d'impatience. Ce ne sont que des réponses trop faciles. Face au mystère et au silence de Dieu que connaît chaque croyant, il faut rester patient. Pour Tomáš Halík, la foi, l'espoir et l'amour sont trois formes de patience face au mystère de Dieu.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui au théologien Tomáš Halík que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et Pavel Kahoun. Anna Kubešta vous retrouve dimanche pour le magazine musical. Bonne fin de week-end, au revoir, naslyšenou.
Radio Praga continua.